Dupont, je suis infectiologue, je travaille à l'hôpital de la Conception, qui est un des gros centres à Marseille où on s'occupe d'infections VIH, puisque nous, dans le service, on suit à peu près 1600 patients. Personnellement, j'en suis 450, on voit à peu près le débit qu'on peut avoir. Ce matin, depuis 8 heures, je suis à la consultation et je suis venu vous voir. Ce que je voudrais, avant de commencer à vous présenter l'infection VIH et mettre au point des choses que vous connaissez sûrement déjà en partie, c'est que vous réagissiez. Pour que vous réagissiez, je vais vous distribuer à chacun deux post-it. C'est pas grand-chose, ils sont petits. Et je voudrais que sur chaque post-it, vous mettiez un mot qui vous vient à l'idée quand on dit VIH, quand on dit SIDA. OK ? Pendant ce temps-là, on vient de s'installer. Je vous distribue les post-it et ça va nous permettre d'avoir un petit peu ce à quoi vous réagissez et ensuite on les classera. C'est complètement anonyme, hein. N'ayez pas peur, mettez ce qui vous passe par la tête et ce qui vous interpelle en termes de sida et d'infection VIH. Infection, maladie, virus, condom, j'ai vu préservatif là aussi, contraception, on va mettre un petit peu par heure. Il fallait pas faire l'amour, c'est joli aussi. Préservatif, maladie, transmission, où est-ce que j'ai mis ? Virus, mort, maladie qui sort, hein, avant tout. Sexualité. Vous avez dit, c'est intéressant. C'est intéressant, il y a énormément de papiers qui sont sortis sur sexualité. C'est normal, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Rapport sexuel, protection, etc. Il y en a plein qui disent maladie. Et il y en a encore plus qui disent mort. N'oubliez pas que la mort, c'est quand même la maladie la plus fréquente. Hein, on va tous mourir un jour. Non. Mais je veux dire par là, ça nous arrivera à tous. Si on n'y fait rien, effectivement, c'est ce qui se passait dans les années 85 quand on a découvert la maladie et qu'on n'avait pas de traitement à leur proposer, les patients mouraient au bout de 10 ans maximum. À l'heure actuelle, je vais quand même vous donner un petit scoop qui est sorti dans les derniers congrès et dans les derniers articles. Un patient qui, depuis plus de 6 ans, un bon traitement efficace, et on verra tout à l'heure ce que c'est efficace, a la même espérance de vie que quelqu'un du même âge de la population générale. Il ne guérit pas. Il a la même espérance de vie, c'est-à-dire sous la forme d'une maladie chronique, et chronique, ça sort assez régulièrement aussi, le terme d'incurable, c'est intéressant comme ce qui sort, de non guérissable. Tout ça vous dit que, c'est pour vous exprimer que la maladie VIH a évolué énormément en 20 ans, 22 ans d'ancienneté. Alors, maintenant, je vais vous en parler un petit peu, et puis on pourra rediscuter après de tout ce que vous voulez. Alors, premier message, quand même, qui n'est pas inintéressant. Ça se passe souvent, ça. Ils ne sont pas forcément de cet âge-là. Ce n'est pas vous, vu l'âge, mais un jeune homme, une jeune femme, ils s'aiment. Oui, mais... Ça va pas marcher. Trop caché, je pense. Bon. Le récepteur n'est pas en face. Avant de se rencontrer, ces deux personnages peuvent très bien avoir eu des relations sexuelles et pas forcément des relations sexuelles protégées. S'ils ont toujours été protégés, il n'y a pas de risque, c'est clair. Alors, chacun a eu quelques relations sexuelles avec quelques partenaires. Enfin, des relations sexuelles, mais avec quelques partenaires. Et puis, chacun de ses anciens partenaires a eu des relations sexuelles. Et puis chacun a eu des relations sexuelles. Et qu'est-ce qui se passe? Pardon, je vais retenir trop vite. Je suis obligé de revenir en arrière parce que ça ne marchera pas. Voilà. Désolé, ça a loupé sur l'animation. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si là au milieu, il y en a une ou un qui était infecté par le VIH? eh bien, toute la chaîne, ce n'est pas obligatoire, mais il se peut très bien que celui-là, sans le savoir, soit infecté par le VIH, celui-là, sans le savoir, soit infecté par le VIH, du coup, lui, et pourquoi pas elle. Je veux dire par là que l'épidémie a changé, les conditions de transmission ont changé. Il y a 20 ans, c'était principalement des homosexuels, principalement des toxicomanes, parce que c'était des prises de risque connues. La différence entre ce couple et un couple homosexuel, c'est qu'en général, ça, vous le multipliez par 10 ou 20. Statistiquement, les homosexuels, masculins principalement, ont beaucoup plus de partenaires différents dans leur vie. Donc plus on a de partenaires, s'il y a un sur temps qui est infecté, ben, si on a énormément plus de partenaires, le risque de rencontrer un infecté est beaucoup plus grand. Donc c'était les homosexuels, c'était les toxicomanes, parce qu'ils s'injectaient, ils se passaient des seringues dans lesquelles il y avait des petits restes de sang, donc il suffisait à transmettre le virus. Là, il y a eu rapidement de la prévention à ce sujet-là. Et puis, ça a évolué. Et actuellement, les nouveaux cas d'infection VIH, ce sont exclusivement ou presque des couples hétérosexuels, banals, entre guillemets, qui n'ont pas de prise de risque connue, mais simplement qu'il y a eu un partenaire de partenaire de partenaire de partenaire qui était positif. Et c'est comme ça qu'on en vient à une épidémie cachée, enfin pas cachée, mais inconnue, et au moment où on a ce rapport, on ne peut pas penser que son partenaire puisse être infecté. D'où les précautions à prendre. Alors, des petites définitions, mais vous les savez, puisque c'est ce que je vais, c'est ce qui est sorti. Voilà un peu, et on voit que finalement, vous allez tous vous reconnaître là-dedans, dans tous les papiers que vous m'avez rendus, on retrouve ça, ou presque. D'où vient la maladie? Qu'est-ce qu'on peut en faire? La mort. La mort, il y a je ne sais plus combien de papiers sur la mort. Se protéger, la vie foutue. Comment je vais l'annoncer à mon partenaire, à ma famille, à mes amis? Est-ce que je dois l'annoncer à mon partenaire, à ma famille, à mes amis? On verra. Et puis, une question quand même qui est importante. On me découvre aujourd'hui séropositif. Est-ce que j'ai pu, dans ma vie antérieure, infecter d'autres personnes? Il faut se poser la question. Alors, quelques petites définitions, mais que vous connaissez aussi, c'est sorti dans vos petits papiers. SIDA. C'est syndrome. Syndrome, ça veut dire ensemble de signes qui définissent une maladie. D'immunodéficience. Immuno, c'est la défense. Déficience, c'est la baisse. Et acquise, parce que c'est lié à cette infection par le virus et non pas inné, naturel, comme ça peut l'être dans certains cas. Il y a des patients qui ont une mauvaise défense spontanément. En gros, il y a eu 25 millions de décès jusqu'à maintenant. C'est la plus grosse catastrophe humaine. Ça tue encore tous les jours des milliers de personnes. L'origine reste à peu près, enfin, de plus en plus certaine, mais on va en discuter. Cette origine, justement, il y en a un ou deux qui m'ont mis Afrique. Il y en a un qui m'a mis... Non, c'est autre chose. Oui, Afrique, il y en a un qui m'a mis Afrique. Et effectivement, c'est un virus africain. Qu'est-ce qui se passe dans les virus? Les virus, ça mute sans arrêt, ça se modifie un petit peu. Et pour retracer les choses, le virus du sida, vous avez entendu parler du prix Nobel récemment, le virus du sida a été mis en évidence en 1983. Par un chercheur de l'Institut Pasteur, et c'était un nouveau virus qu'on ne connaissait pas. Et puis, à force de chercher, on a retrouvé quelques années plus tard, en 89, et maintenant on le connaît beaucoup mieux, l'équivalent chez le singe, et notre plus proche collègue, c'est le chimpanzé, en termes de d'immunité, enfin en termes de tout le métabolisme et la physiologie du chimpanzé est très proche de la nôtre. Et le virus SIV, VIS, donc virus de l'immunodéficience du singe, et non pas de l'homme, non pas l'ancêtre maintenant, mais ça a été prouvé comme étant l'équivalent, l'origine du virus humain. Pourquoi est-ce que d'un coup, ce virus existe depuis très longtemps, et pourquoi est-ce que d'un coup, il s'est mis à infecter l'homme? Ben simplement parce que l'homme a été le chercher. L'homme est allé et rentré dans des... Vous savez qu'il y a des gros problèmes de déforestation, d'abattage de bois, d'abattage on cherche des mines, etc. Et donc l'homme rentre régulièrement dans des biotopes, hein, des endroits où il y a une vie autonome, animale, plante, etc., où l'homme n'est jamais rentré, et là il peut rencontrer de différentes manières des virus et des agents pathogènes. Et en l'occurrence, le virus du singe, assez facilement, d'une part parce qu'on chasse le singe dans certains pays d'Afrique, notamment au Congo, en Centrafrique et au Gabon, ça s'est passé au début, on chasse le singe pour le manger, Donc on mange de la viande qui n'est pas forcément bien... Ben oui, je suis désolé, c'est pas moi qui chasse. Et donc, on est au contact, on dépèce les bêtes, et du coup, on est au contact éventuellement des virus qui sont dans le sang du singe. D'autre part, quand il y a des petits, on ne tue pas les petits, on les garde comme animaux de compagnie. Et ils peuvent mordre, ils peuvent... Voilà. Donc, il peut y avoir des contacts étroits entre un virus du singe et un homme. Et puis, un jour, le virus a muté un tout petit peu et est devenu agressif pour l'homme. Et c'est parti comme ça. C'est souvent très vieux, ça. On a retrouvé des traces de ce virus. Bon, vous savez, quand on fait des prises de sang, on a tendance à garder les fonds de tubes au congélateur. On a ressorti des fonds de tubes qui dataient des années 50 et on a retrouvé du virus. Donc, l'épidémie, elle était micro-épidémie dans certains des petits foyers en Afrique. Si en Afrique, vous avez quelques patients, enfin quelques personnes de plus du village qui meurent un peu maigres, avec des diarrhées, ça ne choque pas, forcément. C'est des pathologies courantes sur place, qui meurent de pneumonie, qui meurent d'un tas de maladies infectieuses. Ça ne choquait pas à l'époque sur place. Maintenant, il y en a tellement que ça devient important, ça devient visible. Mais à l'époque, ça n'était pas visible. Et ça n'a été mis en évidence qu'une fois que c'était visible, c'est-à-dire arrivé en Europe. Et arrivé en Europe et arrivé en Amérique. Et d'ailleurs, la mise en évidence est un modèle intéressant d'épidémiologie. Les premiers cas ont été découverts, vous avez entendu parler, dans les années 82-83, à San Francisco et à New York, dans des communautés homosexuelles, parce que c'est là qu'il y avait le plus de cas au début. Et comment est-ce qu'on a découvert ça? Simplement parce qu'il existe une maladie, qui s'appelle la pneumocystose, peu importe, pour laquelle il n'y a qu'un traitement. Et ce traitement ne sert qu'à traiter que cette maladie. Or, cette maladie, elle existe de manière disséminée, il y en a un cas de temps en temps, chez des gens qui ont une immunité un petit peu abaissée, pas forcément par le VIH, qui ont une mauvaise défense. Bon. Les Américains, au lieu de se dire, bon, on va mettre du médicament dans toutes les pharmacies de tous les hôpitaux, qui va périmer, parce que de toute façon, on n'en servira presque jamais, ont centralisé un petit stock dans les fameux CDC à Atlanta, là, c'est la base de l'épidémiologie américaine. Et du coup, il suffit de passer un petit coup de fil avec Federal Express, en 12 heures, vous avez le médicament, n'importe où aux États-Unis, et donc, ça évite des stocks qui se périment. Et tout d'un coup, donc forcément, il y a une liste des gens qui ont demandé ce médicament. Et tout d'un coup, dans les années 82-83, il y a eu une augmentation très nette, hein, vous voyez les courbes qui montaient, de la demande de ce médicament pour New York et pour San Francisco. Ça a mis la puce à l'oreille, ils ont été voir ce qui se passait. Ils se sont aperçus que tous ces patients avaient non seulement cette infection pulmonaire, mais également une baisse de l'immunité, des ganglions, etc., etc. Et c'est comme ça qu'a été décrite la maladie. Sinon, il y aurait peut-être eu plusieurs années de plus avant qu'on la mette en évidence. Alors, des chiffres qui font un petit peu peur, mais on est bien obligé d'en parler. Dans le monde, 33 millions de personnes ont le VIH actuellement. C'est une estimation, mais qui est de plus en plus juste. Chaque année, c'est à 2007, pratiquement 3 millions de nouvelles infections. Ça fait 7500 nouveaux infectés par jour. Ça fait 6500 en France en une année. À peu près. Sur ces 33 millions, il y en a 22 qui vivent en Afrique subsaharienne, et principalement en Afrique australe. Plus c'est rouge, plus il y en a en pourcentage. Et on voit comment ça évolue. Des années 90 à nos jours, dans le monde, vous voyez que le nombre de personnes, et l'incidence c'est pareil, et la prévalence, je veux dire, ont tendance à s'aplatir. En Afrique, ça augmente, mais en Afrique, le nombre continue à augmenter, mais la prévalence a tendance à diminuer un petit peu. Donc on est au sommet de l'épidémie et c'est en train de s'abaisser un petit peu. À partir du moment où il y a quand même tellement de personnes atteintes qui sont celles qui prennent des risques, il finit par en avoir moins de nouvelles. C'est toujours un petit peu compliqué à expliquer. Comment ça se passe dans le monde? Grossièrement, les deux tiers, ça c'est par année, et dans chaque région du monde, vous voyez que les deux tiers des cas, et depuis toujours, sont en Afrique subsaharienne, en Afrique noire. Sur ce qui reste, si on prend le petit morceau qui était au-dessus, si on prend ça, ça se répartit pour moitié en Asie, et tout le reste se répartit globalement entre l'Europe, l'Amérique, l'Australie, etc. Donc vous voyez, deux tiers en Afrique et la moitié de ce qui reste, c'est-à-dire un sixième, en Asie. Et l'Asie est en train de suivre le mouvement de l'Afrique et on explose pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 8 pays, qui sont l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, la Zambie, la Fédération de Russie, la Thaïlande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, représentent à elles seules un tiers des nouveaux cas VIH dans le monde chaque année. La part des femmes. La part des femmes, c'est intéressant. Dans le monde, on le voit ici, et parce que le gros de l'épidémie est en Afrique, et qu'en Afrique, la transmission est majoritairement hétérosexuelle, il y a très peu de toxicomanie, il y a très peu d'homosexualité, ben, depuis toujours, elle était, vous voyez, à 55% et 60% à l'heure actuelle. Pardon, le monde, c'est ici. Le monde, c'est là. Le monde, c'est à 50%. L'Afrique, c'est un peu plus de femmes. Et l'Europe, qui est la ligne bleue, qui est ici, on était au début, l'Europe et l'Asie aussi, on était au début à 15-20% de femmes. C'était une maladie masculine, parce que homosexuel masculin et parce que la plupart des toxicomanes sont masculins. Une grosse majorité du moins. En Asie, on atteint 30%. En Europe, on atteint 30%, à peu près. À l'heure actuelle, il y a un tiers de femmes parmi les patients infectés par le VIH. Ça, c'est intéressant. On verra tout à l'heure ce que c'est que le sida. Le sida, c'est l'évolution, pas finale, mais c'est l'évolution vers un stade un peu plus grave. Et c'est le moment où on peut compter. On peut compter parce que dans les années du début de la maladie, il était hors de question de compter tout le monde, ce n'était pas faisable, de dépister tout le monde. Et c'était hors de question de faire une déclaration obligatoire de tous les nouveaux cas. Ça ne passait pas, ce n'était pas dans l'idée de l'époque. Donc la seule chose qu'on pouvait compter, c'est le moment où les gens atteignaient ce stade sida, parce que stade sida veut dire besoin de soins, besoin de médecins, besoin de médicaments, besoin de lits d'hôpital. Donc il fallait compter pour pouvoir donner des moyens pour ça. Et c'était le moment où c'était visible parce qu'il y avait une demande de soins. Donc là, on a fait une déclaration obligatoire à ce moment-là. Et on voit ici en nombre de cas sida, parce que c'est la seule chose qu'on a rétrospectivement compté, même si maintenant on a les nouveaux cas. Et on voit que le VIH a été découvert ici. Vous voyez, le dépistage à ce niveau-là, en nombre de cas dans le monde, hein, à peu près. Le premier traitement qui ne marchait pas ici, et tac, là, on a eu en 96... les vraies associations de traitement qui marchent. Et bam, vous voyez que le nombre de cas de sida a chuté drastiquement a baissé d'un coup en traitant vite tout le monde. Et puis maintenant, ça continue doucement à baisser parce qu'on continue à traiter. Donc vous voyez l'efficacité des traitements. Pour vous en donner un reflet plus vécu dans notre service, quand je suis arrivé dans le service en 95, pardon, juste avant ces traitements, on a 30 lits dans le service et on avait à peu près 300 patients qui mouraient dans le service tous les ans. Ça fait 2 par semaine. Ça fait 4 par semaine. Entre 4 et 5 par semaine. À tel point qu'il y avait une psychologue qui était là pour s'occuper du personnel. On était là. C'est vraiment, on accompagnait les gens à la mort plus qu'autre chose. À l'heure actuelle, si on a 10 patients de parents qui meurent d'une infection liée au VIH dans le service, c'est le grand maximum. Et souvent des gens qui se sont laissés complètement aller, qui n'ont pas du tout suivi le traitement, ou qui ne savaient pas qu'ils étaient positifs, qui arrivent très tard, etc. Donc vous voyez la différence énorme. Alors l'agent, c'est le VIH. Le VIH, c'est virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est le virus qui fait baisser l'immunité de l'homme. Des termes que vous entendez, c'est un rétrovirus. Pourquoi rétrovirus? Parce que c'est un virus qui est... Vous savez que la cellule de l'homme... Elle a comme noyau de l'ADN. Or, le virus, c'est un virus avec de l'ARN. Son noyau, c'est de l'ARN. Or, il y a une enzyme que le virus apporte, qui s'appelle la transcriptase inverse, qui permet de faire une rétrotranscription. C'est pour ça que c'est un rétrovirus, c'est pas parce qu'il va en marche arrière, qui, à partir de l'ARN, est capable de fabriquer de l'ADN. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Il faut savoir comment marche un virus. Et c'est comme ça que vous comprendrez toute la suite. Je pense que vos profs de SVT vous ont appris qu'une cellule, en gros, c'est une usine à protéines. Une usine à fabriquer quelque chose. Et à se reproduire, bien sûr. Cette cellule, elle est composée, cette usine, elle est composée de deux choses. Il y a un bureau d'études qui fabrique les plants, c'est le noyau, avec l'ADN. Et puis il y a un atelier, qui est le cytoplasme, avec tous ces organismes, les organelles, qui fabrique les protéines dont on donne les plants à partir du bureau d'études. Un virus, c'est simplement un bureau d'études en freelance. C'est-à-dire qu'il a ses plants, mais il lui faut trouver un atelier qui veut bien les fabriquer. Il veut bien les dupliquer, les fabriquer. Du coup, chaque virus est spécifique d'une cellule. Le virus de l'hépatite, il attaque les cellules du foie. Parce qu'il y trouve ce qu'il faut pour faire fabriquer ses plans. Dupliquer ses plans. Le virus de la mosaïque du tabac, c'est une maladie de la plante du tabac, mais il a pour seule cellule cible le tabac. Le virus de la grippe, c'est les cellules de l'arbre bronchique, etc. Chaque virus a une spécificité. Mais il se trouve que celui-là, le virus VIH, il a comme cellule cible un globule blanc. C'est dans nos globules blancs, il y a des lymphocytes et des polynucléaires. Les polynucléaires, c'est ceux qui bouffent et qui font le pus. Les globules blancs, les lymphocytes, c'est ceux qui fabriquent les anticorps. C'est la première ligne de défense. Mais dans ces lymphocytes, il y a encore deux sous-groupes, il y a les T et les B. Et dans les T, il y en a qui ont des récepteurs à leur surface, qui s'appellent des récepteurs CD4. Je suis obligé d'aller jusque-là parce que vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, ces cellules, lymphocytes T avec récepteurs CD4, qu'on appelle T4, LT4, CD4, il y a tout un tas de façons de l'appeler, qui sont la seule cellule cible de ce virus. Et donc le virus, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la cellule lymphocyte T4. Cette cellule, elle a une particularité, c'est qu'elle a à sa surface des petits récepteurs qu'on appelle CD4, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et le virus, pour pouvoir s'attacher, est capable, avec des petites protéines qu'il a à sa surface, de reconnaître ce récepteur et de s'y accrocher. C'est comme ça qu'il s'accroche que là, parce qu'il n'a de récepteur que pour ses molécules CD4. Du coup, il s'accroche. Une fois qu'il est bien rapproché, bien serré, il y a une espèce de vérin qui le tire. Une fois qu'il est accroché, il va lâcher son espèce de capsule qui est autour, pénétrer dans la cellule, ici, et lâcher dans le cytoplasme son ARN. Hein, le petit S qui est là, c'est l'ARN du virus. Cet ARN, l'enzyme en question, va transformer en ADN. Transformer en ADN, on va pouvoir l'intégrer au milieu de l'ADN de l'homme, discrètement. La cellule, elle vit toujours, elle ne lui pose pas de problème. Et c'est toute la machinerie de production de la cellule humaine qui va utiliser les plants qui ont été intégrés dedans pour fabriquer toutes les protéines nécessaires à fabriquer un virus. Il sort un kit d'un tas de petites protéines dans le cytoplasme qui vont s'assembler, fabriquer un virion qui va sortir en arrachant un petit bout de membrane. Et à force d'avoir des milliers de virus qui sortent d'une cellule, la cellule meurt. D'où, pourquoi tout ça? Parce que dès le moment où un individu est infecté, il va commencer à multiplier comme ça et fabriquer 10 puissance 9 virus par jour, tout de suite. C'est énorme. Et du coup, les pauvres cellules, elles font ce qu'elles peuvent, elles essaient de se multiplier, mais elles sont tuées par le virus. Pas volontairement. Elles les tuent parce qu'il y a des milliers de virus qui en sortent, ça explose les membranes, la cellule meurt et l'immunité du sujet diminue. Alors tout ça, c'est un intérêt. Je vous montre ça parce que les traitements qu'on utilise maintenant, eh bien, ils ont des points d'action un peu partout. Les premiers, ils attaquent ici, ils bloquent l'enzyme. Ensuite, on a eu ceux qui bloquent l'assemblage ici, puis ceux qui bloquent l'intégration, puis ceux qui bloquent la pénétration. Et on a maintenant pas mal de familles. On a en 83, on a eu le premier médicament, la ZT, le rétrovir, qui a permis de sauver quelques patients, mais trop tard. Et puis, à l'heure actuelle, on a 22 molécules qui nous permettent de jongler. Et donc, on peut traiter, on peut être efficace tout en n'étant pas trop agressif avec le patient. Alors, comment est-ce qu'on dépiste? Le dépistage, c'est une prise de sang. Alors maintenant, il commence à y avoir des petits tests au niveau de la salive, etc. Mais le plus fiable, c'est une prise de sang qui va permettre de détecter. À partir du moment où vous avez un corps étranger qui pénètre, le virus est un corps étranger. C'est ce qu'on appelle un anticorps, un antigène. Cet antigène va faire fabriquer par d'autres lymphocytes des anticorps. Et on est capable de dépister dans le sang les anticorps, de mesurer la quantité d'anticorps qu'il y a dans le sang. Seul défaut, alors ça se fait, c'est un test qu'on appelle ELISA, qui est très simple, qui se fait en une demi-heure au laboratoire, qui ne coûte rien du tout, qui ne peut pas être faussement négatif. Donc quand un ELISA est négatif, on vous le rend négatif, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des erreurs dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est positif alors qu'il ne l'est pas. Donc tous les positifs sont recontrôlés avec un deuxième test de confirmation qui s'appelle Western Blot, peu importe, qui est un peu plus cher, qui est un peu plus difficile à faire, mais qui permet de contrôler tous les négatifs, tous les positifs, et d'être sûr de rendre un résultat valable. De même qu'une première sérologie positive, elle se recontrôle par principe une deuxième fois. Il peut toujours, à partir du moment où vous avez des milliers de tubes qui sont manipulés, il peut toujours y avoir une erreur humaine d'inversion de tube, n'importe quoi. Donc on a beau prendre toutes les précautions, moins de 1% d'erreur, ce n'est pas possible. Donc, tout est recontrôlé par principe. Donc, et quand on rend une sérologie positive, c'est qu'on est sûr qu'elle est positive. Alors, on ne prend pas le risque d'annoncer ça à quelqu'un sans sécurité. Alors, vous avez vu qu'il y a du virus qui se multiplie et des cellules qui souffrent. Ben, qu'est-ce qu'on peut mesurer pour suivre les patients ? Ben, on peut mesurer le nombre de cellules, T4, chez un individu qui n'a pas d'infection VIH, ça varie énormément en fonction de l'agression extérieure, et ça varie en gros entre 500 et 1000 lymphocytes par millimètre cube de sang. C'est allez, 20 à 30% des lymphocytes, concernant. À partir du moment où il y a une infection VIH, ça va spontanément baisser. Et notre but, c'est de ne pas les laisser baisser en dessous de 200 par millimètre cube, parce que c'est le moment où il commence à y avoir des infections qui peuvent survenir. La défense est insuffisante. Donc vous avez vu qu'il y a quand même une grosse marge. Le minimum qu'on veut pas descendre, en tout cas on ne veut pas descendre, c'est 200. Et la normalité, c'est 500. Donc tous les gens qui sont entre 200 et 500, ils ne posent pas de problème. À 300, 350, il n'y a pas de souci. Mais plus c'est élevé, mieux ça vaut, parce que de toute façon, spontanément, ça risque de baisser. Et puis deuxième chose qu'on peut mesurer, c'est la quantité de virus qui circule dans le sang. Alors on ne compte pas les virus en les regardant passer dans un tube, c'est clair. On a des moyens de ce qu'on appelle biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on multiplie l'ARN du virus jusqu'à ce qu'on soit capable de le voir. Et à faire ça, on calcule combien il y en avait au départ. Et donc ce qu'on appelle la charge virale, c'est la mesure du nombre de copies de virus qu'il y a dans un millimètre cube de sang. Et notre seul but, c'est qu'elle soit négative. Bien entendu, compte tenu de la méthode de mesure, on ne peut pas dire zéro. On n'a pas de microscope assez puissant pour aller regarder. On n'a pas de machine qui permet de regarder ça. Donc notre minimum de mesure actuellement, c'est 40. Donc on dit que c'est indétectable quand on est en dessous de 40 virus par millimètre cube de sang. Il commence à y avoir des techniques à 20, puis à 2 cellules. Enfin, on commence à diminuer de plus en plus. Au début, c'était 500. Maintenant, on a un seuil à 40. Mais quand c'est inférieur à 40, personne n'est capable de dire si c'est 39 ou si c'est 0. Mais c'est largement indétectable. Alors vous allez me dire, puisque les traitements font baisser jusqu'à ce que la charge virale soit indétectable, et que du coup, comme il n'y a plus de pression par les virus, le nombre de T4 monte, on guérit. Et bien non, on ne guérit pas malheureusement. On ne guérit pas malheureusement parce que, vous avez vu le schéma juste avant, pour que ça marche, il faut que ce soit une cellule active. Une cellule qui soit elle-même en train de reproduire ses plans. Si vous rentrez un virus dans une cellule qui est au repos, dans notre organisme, les cellules au repos, il y en a plein, et bien ce virus, il va rester là, et personne ne va l'atteindre. Les médicaments, ils ne peuvent marcher que si le virus est en train de se multiplier. Donc les médicaments ne marcheront pas. Et donc il y a ce qu'on appelle des réservoirs, des sanctuaires de virus, qui font que, à partir du moment où on arrête un traitement, à partir de ce sanctuaire qui se multiplie très 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 lentement, donc qui ne suffisent pas à rentrer dans le turnover de virus, à partir de là, boum, les quelques virus qui sont là vont se multiplier et après ça explose à toute vitesse. Et en quelques jours, quelques semaines, la charge virale remonte à plus de 100 000 virus. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à guérir. Et le jour où on trouvera un médicament qui va chercher les virus dans les sanctuaires, dans ces cellules de repos, là, on aura sûrement gagné. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, l'évolution. On n'aime plus, honnêtement, à l'heure actuelle, le terme de sida. Il n'apporte rien. C'est une évolution dans le temps. Au moment de l'infection, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en quelques heures, le virus se reproduit rapidement, 10 puissance 9 par jour. Le nombre de cellules T4 va diminuer à ce moment-là, forcément, puisque tous ces virus qui explosent font diminuer les T4. Mais l'organisme est quand même à ce moment-là encore en pleine défense, est capable de bloquer les choses, provisoirement. On va le revoir sur un schéma après. Et donc très rapidement, la charge virale rechute, parce que l'organisme fabrique des anticorps, simplement, et le nombre de T4 remonte à un seuil normal. Et ensuite, il y a toute une période, qui peut durer 10 ans, 15 ans, où il ne se passe rien. Le virus est là, et éventuellement... Alors au moment de l'infection, pardon, j'ai oublié, il y a 80% des cas où on ne s'en aperçoit pas du tout, et puis il y a 20% des cas où il y a un petit peu de fièvre, une petite angine, une petite toux éventuellement, une petite éruption, des choses qui passent très banales. C'est clair qu'y penser l'hiver, c'est plus difficile qu'y penser l'été. Hein, si on a toussé à bonne angine, c'est plus facile l'hiver. Mais bon, ça peut très bien passer à côté, et c'est souvent asymptomatique. Ensuite, donc, toute la phase où il ne se passe rien, parce que l'immunité est encore très bonne, donc il n'y a aucun signe spécifique, l'individu a une immunité normale, il attrape ce qu'il doit attraper, pas plus que les autres, et il n'est pas malade à cause du virus. Vous voyez, le virus, il rend vulnérable, mais il ne rend pas malade en soi. Eh bien, il y a un espèce de contrôle provisoire de l'infection, avec une diminution très lente des T4, une augmentation très lente de la charge virale. Je pense que j'ai un schéma après. Voilà. Jusqu'à ce que ça arrive à un stade trop bas. Donc voilà le début. Donc en rouge, vous avez le virus. Donc le virus, il arrive, il se multiplie. Puisqu'il se multiplie, les T4 en prennent un petit coup, mais contrôle. Et comme il y a un contrôle, le virus redescend et se maintient à peu près stable pendant quelques années, avec de temps en temps des petits pics. Et l'immunité, elle baisse de manière un petit peu aléatoire, enfin fluctuante. Et puis il y a un jour où ça commence à avoir ce débordement du système immunitaire, où la quantité de virus augmente, les T4 baissent, et c'est là qu'on a des problèmes. Parce que quand les T4 baissent en dessous du fameux seuil de 200, on commence à attraper des maladies plus graves, et surtout qu'on appelle maladies opportunistes, parce qu'elles profitent de l'opportunité de la baisse de la défense pour devenir agressives. C'est des choses qui sont très peu agressives, que vous avez plus ou moins tous dans votre organisme, mais qui profitent de la baisse de la défense pour devenir agressifs à un moment. Et en revanche, vous voyez ces fameux anticorps qui permettent de faire la sérologie, il y a une petite période au début où ils ne sont pas encore fabriqués, et il n'y a qu'un moment où ils sont fabriqués. Et le problème, il est là principalement, c'est qu'il faut entre 3 semaines et 3 mois maximum aux individus pour fabriquer assez d'anticorps pour qu'ils soient dépistables. Et il y a cette fenêtre sérologique qui fait que quand on vient d'être infecté, on est contagieux. Enfin, pas contagieux, on peut transmettre le VIH. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible. On peut transmettre le VIH et on ne le sait pas parce que les anticorps ne sont pas encore là, donc la sérologie est négative. Donc c'est là le problème du risque, en fait. Une fois que c'est fait, qu'on le sait, qu'on fait une sérologie, il n'y a pas de souci. Alors, le sida, c'est la complication. C'est la définition du sida, c'est avoir, d'une part, une immunité basse, mais d'autre part, avoir attrapé au moins une des maladies qui sont sur la liste des maladies définissant le sida et qui sont des infections opportunistes. C'est la tuberculose, c'est la maladie de Kaposi, c'est la candidose de l'œsophage, c'est la pneumocystose, la toxoplasmose cérébrale, etc. Des tas de maladies très spécifiques qui ne peuvent survenir quand l'immunité est très abaissée. Et donc, finalement, ce stade sida, il avait un intérêt, je vous ai dit, quand on avait besoin de mesurer, de compter les patients au stade sida, parce que ça permettait de définir des moyens et d'avoir de l'argent pour s'occuper des patients. À l'heure actuelle, et ça arrive souvent, on dépiste un patient au stade sida. Il a une infection opportuniste. On traite son infection opportuniste. On attaque d'emblée un traitement contre le VIH efficace. En quelques semaines, son immunité va remonter à un niveau largement suffisant. Il aura guéri son infection opportuniste qui définissait SIDA, et il est comme tous les autres. Donc, pourquoi lui garder dans la tête, se dire « j'ai été au stade SIDA, donc c'est plus grave », etc. Ça n'apporte rien. Donc maintenant, et d'ailleurs les patients nous le disent quand ils commencent à nous voir, c'est « est-ce que j'ai le SIDA ou est-ce que je ne suis que séropositif ?» C'est intéressant comme démarche psychologique. C'est la même chose, c'est aussi grave l'un que l'autre, c'est aussi, on s'en occupe de la même façon, on traite de la même façon, on gère de la même façon, mais ce n'est qu'une évolution de la même maladie. C'est pas à partir du moment où il y a un couperet qui tombe avec le stade SIDA. Oui, ça l'était quand il n'y avait pas de traitement. À l'heure actuelle, avec le traitement, passer au stade SIDA, c'est pas plus grave, à peine plus grave que d'une évolution correcte. Il vaut mieux s'en occuper plus tôt, c'est clair, mais... il n'y a pas de souci. Alors voilà des exemples de maladies opportunistes, peu importe, hein, qui donnent des petites taches, la tuberculose, etc. Et ce n'est pas le VIH lui-même qui va entraîner la mort éventuellement, c'est d'avoir attrapé une, deux, trois maladies qui sont plus ou moins curables, etc. Mais à l'heure actuelle, en s'occupant bien des patients, et à partir du moment où les patients se font dépister à temps et sont réguliers, prennent leur traitement comme il faut, et c'est de plus en plus facile de le prendre comme il faut parce qu'il est de plus en plus facile à prendre, avec de moins en moins d'effets secondaires. Les premières trithérapies, il y avait 18 comprimés à prendre par jour. À l'heure actuelle, je fais une bonne trithérapie avec 2 comprimés par jour, une fois par jour. Sans effets secondaires ou presque. Donc ça a joué énormément dans l'évolution de la maladie. Donc je vous ai montré que dès qu'une personne est infectée, 10 puissance 9 virus par jour. Donc il y en a partout. La seule façon de transmettre où est le virus, dans les cellules T4. Il y en a un petit peu qui sort des cellules le temps de rentrer dans une nouvelle. Donc il y en a un petit peu circulant dans le sang, mais le gros des virus, il est dans les cellules. Donc comment est-ce qu'on transmet la maladie? En transmettant des cellules T4, tout simplement. Elles sont où ces cellules T4? Elles sont dans le sang. Donc comment est-ce qu'on transmet la maladie? En transmettant du sang. Pas que du sang, parce que les cellules T4, je ne sais pas si vous avez... était jusque dans la biologie, mais il y a l'équivalent des T4 qui s'appelle les macrophages. C'est des T4 qui sont dans les tissus. Et des macrophages, il y en a partout. Donc, des du virus, il y en a quasiment partout. Entre autres, il y en a donc dans le sang, qu'on vient de voir. Et il y en a énormément dans les sécrétions sexuelles, soit le sperme ou les sécrétions vaginales. Dans le sperme, attention, il n'y en a pas du tout dans le spermatozoïde. Il y en a dans les globules blancs qui accompagnent les spermatozoïdes pour les défendre dans le sperme, dans le liquide spermatique. Ce qui veut dire après que pour faire de la... on peut avoir des enfants, éventuellement sans prendre de risque. On en discutera s'il y en a qui veulent discuter. Donc, il y en a dans le sperme, il y en a dans les sécrétions vaginales, il y en a dans le sang, il y en a dans le lait. Comment ça s'attrape? En échangeant du sang, les toxicomanes, les hémophiles autrefois quand on avait le sang pas filtré, pas chauffé. La transfusion sanguine, alors plus chez nous, maintenant il reste un risque sur 17 millions de dons, je crois, à peu près. L'échange de sang, ça peut être mettre les mains blessées dans une plaie, ça peut être se piquer avec une aiguille pour les infirmières, etc. Ça peut aller loin, l'échange de sang. Et puis après, les relations sexuelles, quel que soit le type de relation sexuelle. Et puis, l'allaitement maternel peut également être un risque de transmission. Nous, on a un cas malheureux comme ça dans le service, d'une jeune femme comorienne qui a accouché, qui n'était pas VIH, qui a fait une primo-infection après son accouchement, un mois après. Elle était en train d'allaiter, elle a contaminé son bébé. Pas de peau. Bon, c'est dommage. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un coup de malchance, quoi. Alors, comment est-ce qu'on prend des risques, comment est-ce qu'on ne prend pas de risques? On ne prend aucun risque en vivant normalement. Oui, je t'écoute.
Surtout dans les pays asiatiques, ceux qui vont chez le coiffeur, et si le coiffeur utilise un matériel...
Tout à fait. Alors effectivement, dans la transmission par le sang, il y a tous les objets coupants et les objets piquants. Alors coiffeur, les peignes non, mais les rasoirs oui. Effectivement, il faut se méfier
Et maintenant, il y a des normes, hein, les tatouages, les piercings, les rasages, etc., avec des matériels par usage unique. D'ailleurs, justement, dans la vie de tous les jours, on estime qu'il n'y a aucun risque à vivre aux côtés d'une personne infectée par le VIH. Sinon, nous, on serait tous sous des scaphandres. On vit avec 1000 patients couramment. Il y en a toujours 30 dans le service. On les croise, on les embrasse. À force de les connaître, c'est devenu des amis pour certains. On les soigne, on s'occupe d'eux. De temps en temps, on partage un café, on boit, etc. Il n'y a aucun risque à partager la même vaisselle, à partager les mêmes toilettes, à partager un verre, etc. Il n'y a aucun risque à embrasser une personne infectée par le VIH. Il y a un petit peu de virus dans la salive, mais il y a des morceaux de virus tout cassés. C'est-à-dire que ces morceaux de virus permettent de faire ces fameux tests. Je dis, il y a des petites languettes maintenant qui permettent en quelques minutes de faire un test éventuellement. Donc c'est comme ça qu'on va chercher dans la salive. Mais ce virus ne peut pas être contaminant. Donc embrasser, mais embrasser sur la bouche, il n'y a pas de problème. La sueur, les larmes, on peut trouver des traces de virus, mais ce n'est jamais du virus vivant, contaminant. Serrer la main, c'est clair que non, les piscines, les toilettes, etc., il n'y a aucun risque. La seule chose qu'on demande aux patients, enfin aux gens qu'on vient de découvrir comme infectés par le VIH, à qui on demande de faire attention, c'est de ne jamais partager ni un rasoir, ni une brosse à dents. Pour les raisons qu'on vient de dire. Quand on se brosse les dents, il y a un petit peu de sang. La brosse, elle reste humide, éventuellement après le brossage, même si on l'a rincé comme il faut. Il peut y avoir des traces de sang dessus. Si quelqu'un d'autre la prend, se brosse et se blesse avec, ça peut... Et ça a très con à dire, pas partager une brosse à dents. Mais si vous saviez le nombre de brosses à dents qui sont vendues en France par an par rapport au nombre de Français, il n'y en a pas une par personne. Donc, de toute façon, il y en a forcément qui sont partagées ou pas lavées. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, on ne partage pas sa brosse à dents. Ça paraît trivial comme ça quand on le dit, mais ça existe. Et on ne partage pas le rasoir. Et ça, c'est encore plus fréquent parce que monsieur s'est rasé, madame prend le rasoir pour se faire les jambes après. Et on ne partage pas un rasoir. C'est quelque chose de personnel. Le rasoir, il traîne sur le bord de la baignoire, à l'humidité. Le virus, vous le laissez un quart d'heure à l'air libre, au sec, il meurt. Mais dans un truc un peu humide, un peu chaud au bord d'une baignoire, il peut survivre un peu plus longtemps. Donc, attention, on ne partage pas les rasoirs, on ne partage pas les brosses à dents. C'est la seule chose, c'est la précaution qu'on demande aux patients. On demande aussi que si par hasard ils se blessent, ben quelqu'un n'aille pas mettre les mains dans le sang comme ça. Donc, on demande simplement d'avoir une paire de gants chez eux ou sur eux, si vraiment quelqu'un se blesse, qu'il puisse se faire soigner sans risque. C'est-à-dire comme ça, je ne sais pas si vous avez vu les pompiers ramasser un blessé qu'ils ne connaissent pas, X ou Y, vous, moi, n'importe qui dans la rue, ils mettent des gants. Ce n'est pas par pudeur, c'est parce qu'on ne sait jamais si par hasard le patient a été VIH, il ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui est à risque? C'est de ne pas protéger des relations sexuelles, c'est clair. C'est de partager des aiguilles, de blesser les transmissions, les lésions ouvertes et la transmission de la mère à l'enfant. Juste deux petits mots sur la transmission de la mère à l'enfant. Le problème, c'est que, malheureusement, si on ne fait rien du tout, qu'on laisse une femme qu'on ne sait pas qu'elle est VIH et qu'on la laisse accoucher, il va y avoir 20% de transmission. C'est-à-dire qu'un bébé sur 5 sera positif. Ce qui est inacceptable, bien entendu. À l'heure actuelle, une femme qui est bien suivie, traitée pendant la grossesse, avec un accouchement bien suivi par quelqu'un qui a l'habitude, etc., on est à moins de 1% hors de risque de transmission du VIH. Or, dans la population générale, les grossesses qui se terminent mal, quelle que soit la raison pour laquelle se terminent mal, prématurité, mort, etc., blessure, enfin, maladie et autres, c'est 2,5%. Donc on est en dessous du risque de grossesse qui se termine mal. Donc ça devient à peu près raisonnable. C'est dramatique, bien sûr, mais c'est à peu près raisonnable. Sachant que toutes celles qui sont vraiment suivies, c'est zéro. Et les rares, on a une quarantaine de femmes à peu près qui accouchent par an à Marseille, les rares qui ont eu des enfants positifs sont des femmes qui débarquaient à la maternité pour accoucher, qui n'avaient jamais été suivies, et dont on découvre la positivité pendant qu'elles accouchent. C'est ce qu'on peut faire. On n'a pas le temps de traiter. On fait tout ce qu'on peut au point de vue précaution, mais on n'a pas toujours le temps. Et c'est celles-là qui ont les quelques bébés positifs, c'est ceux-là. Et le principal de la transmission, il n'est pas pendant la grossesse, il est surtout au moment de l'accouchement. Il y a des contacts entre le sang du bébé et le sang de la maman. Et donc, avec des médicaments, un éventuel accouchement par césarienne, si ça risque d'être un peu dur, ne pas allaiter, bien entendu, après, ça permet de diminuer. Attention de ne pas allaiter, ça peut avoir des problèmes. Chez nous, c'est applicable. C'est facile d'avoir un biberon, de l'eau propre, du lait en poudre et l'hygiène qui va avec. Allez vous mettre en Afrique, au fin fond de la brousse, c'est pas forcément évident. Et le risque lié à la mauvaise hygiène du biberon, à la rupture d'approvisionnement en lait en poudre, aux diarrhées liées à l'eau qui ne sera pas propre pour faire le biberon, etc., sont bien supérieurs au risque de transmission par l'allaitement. Donc en Afrique, on laisse allaiter les femmes. On prend moins de risques en faisant ça qu'en les faisant allaiter au biberon et que leur bébé meure d'infection ou de diarrhée. Voilà, volontairement, je me suis arrêté là pour ouvrir à la discussion. Je n'ai pas tout dit, c'est clair. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit sur les comportements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se dépister? Ben, pas forcément. Oui, bien sûr, si on a pris un risque. Non, pour tous les jours, ça ne sert à rien. Oui, vous serez dépisté au moment de la grossesse, au moment du mariage, au moment d'un tas de choses. Un nouveau-né positif. Un nouveau-né positif, on lui donne du traitement tout de suite. Tout à fait, effectivement. C'est le même à des doses tout à fait adaptées, en sirop, etc. Enfin, il y a tout un protocole. Et malheureusement, honnêtement, les enfants... Bon, moi je ne connais pas bien l'enfant, parce que je ne m'en occupe pas. On est très séparés, adultes, pédiatres. Le seul croisement, il est que nous, on peut commencer à s'occuper des enfants à 14 ans, 13 mois et 7 mois, et les pédiatres jusqu'à 20 ans. Alors, on a plein d'enfants, effectivement, qui vivent bien et qui continuent longtemps. Il y a un passage très difficile de l'adolescence. Parce qu'ils commencent à se chercher sur le plan sexuel. Ils commencent à gamberger en se disant machin. Ils ont l'image des parents qui sont éventuellement malades, éventuellement morts. C'est un moment très difficile. Chez le petit enfant, ça passe très bien. Et puis, il y a le moment, effectivement, où ils commencent à grandir, où ils s'aperçoivent qu'ils ont bouffé du médicament toute leur vie, qu'ils vont en bouffer toute leur vie. C'est pas forcément évident. À côté de ça, il y en a chez qui ça se passe très bien. À partir du moment où... Enfin, le problème de l'enfant, c'est qu'on le chouchoute un petit peu aussi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vécu plutôt le... Je vois maintenant les adultes qui étaient des enfants à l'époque. Ils ont été un peu chouchoutés, dans le sens que dès qu'ils ne supportaient pas un traitement, on en mettait un autre, etc. Et on a un peu grillé toutes les molécules, tous les médicaments. Et maintenant, on se retrouve avec des ados. C'est qu'on n'a plus beaucoup de choix. Là, on est très embêté. Et on attend de nouvelles molécules, on attend les produits qui vont arriver, mais ce n'est pas forcément simple. Donc, voilà. Et là, le passage est difficile. Oui. Alors, il n'y a pas de symptômes du sida. Le sida, ce n'est pas une maladie, c'est un état où on ne se défend plus. Donc, les symptômes, c'est les symptômes de la maladie qu'on attrape parce qu'on n'a pas de défense. Donc, les symptômes, ça va être une pneumonie, ça va être la tuberculose, ça va être... une infection de l'œsophage, des tâches liées à une autre maladie, etc. Mais ce n'est pas les symptômes du sida, c'est les symptômes de la maladie infectieuse qui profite de cette baisse de l'immunité pour apparaître. Et plus on avance, plus on baisse les T4, plus ce sont des maladies liées à des germes, enfin des agents pathogènes, banals, fréquents, qu'on a tous dans notre organisme, dont on se défend extrêmement facilement en permanence et qui profite de ça pour devenir agressif. Il n'y a pas de symptômes du sida. C'est pour ça qu'on n'aime plus ce terme de sida. C'est l'évolution d'une maladie. Ouais.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait aucun risque à embrasser une personne qui a le VIH.
Sauf s'il y a des plaies dans la bouche. Je ne l'ai pas dit, mais voilà.
Mais il se peut quand même que l'on attrape le VIH en embrassant une personne.
Non. Voilà, il faut effectivement qu'il y ait un peu de sang. S'il y a un échange, s'il y a un risque d'échange de sang, oui, bien sûr, c'est clair. Si on se mord la langue, c'est toujours une possibilité. Mais sachant que dans la bouche, on a énormément d'anticorps, la salive est dans un milieu extrêmement agressif. Tout ce qu'on avale au niveau de l'estomac, c'est tellement acide que ça va être tué tout de suite. Donc si par là, il y en a quelques-uns qui passent, c'est quand même très rare qu'ils arrivent à être... Il faut vraiment que les deux aient une blessure. Il faut qu'il y ait du sang infecté qui arrive, et que ce sang puisse passer la muqueuse. Spontanément, il ne passera pas la muqueuse. La muqueuse a une barrière étanche. Donc, pour passer la muqueuse, il faut quand même que ce soit un contact long, et etc. Et dans la bouche, il y a tellement de salive, et ça descend dans l'estomac tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il n'y a pas de... Quand nous, on voit arriver, parce qu'on voit... On prend en charge tous les gens qui ont eu des accidents d'exposition, sexuels pour la plupart, eh bien, les accidents comme ça, du sang dans un baiser ou n'importe quoi, on ne met pas de traitement. On surveille, bien entendu, mais on ne met pas de traitement. Alors que rupture de préservatif, quand on ne connaît pas le partenaire, etc., on fait un traitement préventif. D'autres ? Alors, avec tout ça maintenant, comment faut-il se comporter ? Je pense que c'est important, ça aussi. Se protéger, d'accord ? Vous n'allez pas vous protéger toute votre vie non plus. Vous n'allez pas avoir d'enfant ? Voilà. Donc, en pratique, effectivement, il faut se protéger, il faut faire des tests. Comment, quand, combien, qui ? Voilà. Alors, oui ? Une question d'abord, oui. Depuis quand, non ? C'est clair, non, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, tu as vu la courbe tout à l'heure, les T4 vont baisser et remonter. Et la seule chose, c'est que pour un individu donné, si on ne fait pas de traitement ni quoi que ce soit, la pente de baisse de T4 est constante. Mais il y a des individus qui sont comme ça, d'autres comme ça, et on ne sait pas de quel niveau on repart. Donc on n'a pas d'horloge, malheureusement. Alors, de temps en temps, on arrive à retrouver, en réfléchissant avec le patient, au moment où il a pu prendre des risques. Ça ne sert à rien, honnêtement. Voilà, c'est pas... Parfois, ça peut mettre en... au clair l'esprit de la personne, mais ce n'est pas évident. Oui. Oui. Alors, le vaccin contre la tuberculose, malheureusement, c'est un très mauvais vaccin. Le BCG, ce n'est pas un truc qui marche bien. Et puis, à partir du moment où l'immunité est très basse, il n'y a plus d'anticorps. Même les anticorps qui ont été fabriqués par le vaccin. Donc, le vaccin ne protège plus. Donc, on peut quand même attraper la tuberculose, même si on était vacciné et qu'on a une immunité basse. Oui ?
Je voudrais savoir ce qui se passe au niveau des cellules après le traitement.
Après le traitement, eh bien, simplement, selon les modes de traitement, le virus est bloqué à un des stades de la réplication à l'intérieur de la cellule. Cette cellule, pleine de virus en formation et foireux, elle va mourir et être éliminée avec les autres. Donc là, la multiplication s'arrête, et c'est parce que cette cellule, elle meurt comme les autres. Je dirais. En revanche, comme il n'y a plus du virus qui font tuer les cellules, l'organisme se dit, tiens, je peux en fabriquer, il en fabrique. Et c'est là que les CD4 remontent. Le traitement ne fait pas monter le nombre de CD4, c'est notre organisme qui, dès qu'il a l'opportunité de le faire, remonte le pourcentage de T4 et en fabrique un peu plus. Il y a sans arrêt des régulations comme ça, physiologiques.